carnet de campagne. Bonjour, nous ouvrons cette semaine en Charente-Maritime par un mot sur le collectif La Proue à La Rochelle qui prépare l'ouverture d'un tiers-lieu collaboratif reposant sur l'économie circulaire. Il y a des espaces de travail partagés, un centre départemental d'information jeunesse, une coopérative jeunesse de services, un Fab Lab, une recyclerie, une entreprise d'innovation nautique, une régie, 40 associations, s'appelle La Proue. Laproue.fr pour l'adresse. On retiendra d'ailleurs dans ce projet fou que les coopératives sont de plus en plus nombreuses à voir le jour en France. On avance le nombre de 300 créations annuelles. Elles sont SCOP ou SIC et elles présentent normalement les atouts de ce qui en ferait des entreprises de nouvelle génération, synonyme d'une nouvelle ère économique, proche de l'humain, au contact des réalités sociales et soucieuse du bien-être de chacun dans un système géré démocratiquement. Formidable sur le papier surtout. Mais est-ce bien la réalité? Cette interrogation ouvre un carnet dédié à ces entreprises coopératives avec notre invitée Fatima Bellaredge.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Fatima Bellaredge, bonjour.
Bonjour.
Fatima, vous êtes la nouvelle déléguée générale à la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Participatives, les SCOP et les SIC aussi, parce qu'il y a les SCOP et les SIC. Alors les SIC, on en parle assez régulièrement aussi, les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif. Vous avez commencé à œuvrer, et d'ailleurs vous avez été pionnière dans votre région, ancienne région de Languedoc-Roussillon, en créant le premier incubateur régional d'innovation sociale.
Tout à fait, Alter Incube.
Oui. Et ça veut dire quoi, innovation sociale à cette échelle et chez vous?
Alors, chez nous, on parle d'innovation sociale entrepreneuriale, donc c'est couvrir par une activité économique, répondre à des besoins sur lesquels personne n'a répondu jusqu'à maintenant. C'est l'exemple d'une des premières entreprises que nous avons créées, Cuiforia, qui est un site d'accueil de personnes en difficulté d'handicap et qui vont pouvoir être soignées par des thérapies non médicamenteuses, par le cheval.
Ah oui.
Donc on a un certain nombre d'exemples. C'est Enercop qui a été aussi accompagné
fournisseur
en région.
D'énergie verte.
Tout à fait.
On va calculer alors l'histoire de la Confédération et du nombre de coopératives qu'elle regroupe avec une augmentation. Il y a une sorte de frénésie autour du statut coopératif aujourd'hui. Enfin, statut. Le format coopératif, alors que ce sont des entreprises qui peuvent être des sociétés anonymes, des SARL ou des SAS.
Tout à fait.
Mais créer une SCOP, ça veut dire quoi aujourd'hui?
Créer une SCOP, c'est créer une entreprise collective dont le capital va appartenir aux salariés. Ils ont au moins la moitié du capital. On a l'habitude de dire que ce sont des entreprises non délocalisables puisque ce sont les salariés qui vont définir dans quelle mesure ils continuent ou pas cette aventure d'entreprise.
Dans le cadre d'une compétitivité, parce que ça revient dans la bouche de nos grands représentants de l'économie, aujourd'hui de la compétitivité, la concurrence, la mondialisation, la SCOP a une vraie place?
La SCOP peut avoir une véritable place. On a des groupes coopératifs qui comptent 3000, 4000 salariés. Le groupe UP qu'on connaît mieux sous son ancienne appellation Chèque-Déjeuner, c'est 3500 salariés. Ouais. Donc c'est tout à fait possible.
Comment ça se gère à cette échelle-là? Parce que un des principes, c'est quand même une personne, une voix.
Une personne, une voix, oui.
À cette échelle-là, 3000, 4000 salariés, comment on peut encore organiser une stratégie d'un point de vue démocratique à l'intérieur de la coopérative?
Alors, tout est une question d'animation. Animer une vie coopérative comme animer une vie d'entreprise sont des points forts, en fait, que vont retrouver les entreprises. Pour la SCOP, on va vraiment mettre l'accent sur l'animation de cette vie coopérative pour que les salariés puissent avoir entre les mains l'ensemble des informations concernant les choix qui vont être faits dans leur entreprise. Ça ne veut pas dire décider au quotidien de toutes les décisions, se mettre autour de la table parce que une entreprise doit produire.
La 4000, c'est difficile.
Mais c'est s'organiser pour avoir des temps forts lors des assemblées générales annuelles, pour avoir l'ensemble des informations et de décider la confiance à ceux qui dirigent.
Alors, on parle donc des SCOP, mais aussi des SIC, on les cite souvent, donc c'est Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif. La différence entre les deux, c'est que pour les secondes, entre au capital des personnes de l'extérieur, qui peuvent être des collectivités, jusqu'à hauteur de 49%, de façon à ce que les salariés aient toujours le monopole de gestion de leur coopérative.
Ah bah vous êtes parfait, vous le dites encore mieux que moi.
Non, ça c'est faux. On va arrêter là, parce que au bout d'un moment, on se perd. Dans le nombre, on parle de sociétés coopératives ou d'entreprises coopératives. On dit 22 500 en France. Je regarde les chiffres. La CGSCOP, votre confédération générale, regroupe en 2017, donc les chiffres augmentent d'année en année, 3177 SCOP et SIC avec un chiffre d'affaires qui approche les 5 milliards d'euros. Mais si on dit 22 500 entreprises ou sociétés coopératives, on parle d'un autre genre de coopérative.
Tout à fait. En fait, il existe 22 familles coopératives, entre les coopératives agricoles, viticoles, les banques coopératives, les SCOP, les SIC, les coopératives scolaires, les coopératives d'achat dans la distribution, et encore plein d'autres. Donc, il y a 22 familles coopératives et c'est le chiffre que vous donnez. Mmh. Les chiffres 2018, on est à 3400 à peu près et on se rapproche des 60 000 salariés. On a une très très belle progression en 2018. Qui se poursuit d'année en année, là, sur la dernière décennie, on va dire.
Fatima Bellaredj, déléguée générale de la CGSCOP, invitée aujourd'hui des carnets de campagne avec le labo de l'ESS, puisque vous êtes membre aussi
tout à fait.
Du comité direction du labo du think tank de notre ami Huxibil, qui vient régulièrement nous entretenir de l'actualité de l'économie sociale et solidaire. Il y a un instant, on faisait la différence entre des sociétés coopératives et les SCOP et les SIC. Il y a toujours une confusion possible, parce que normalement, SCOP et SIC sont guidés par le même système, le principe de gestion démocratique, de l'intérêt des salariés qui deviennent décideurs et qui peuvent bénéficier des dividendes, une partie des dividendes de l'entreprise, des emplois non délocalisables, avec des secteurs d'activité très ouverts aujourd'hui.
Tout à fait. Alors c'est un secteur, les SCOP en particulier, puisque ce sont les plus anciennes, c'est vraiment le monde ouvrier qui a été précurseur dans la création de ces coopératives, avec vraiment ce principe de mutualisation. Donc on avait une part dans le secteur industriel qui était extrêmement important, puisque c'était au démarrage plus de la moitié des entreprises. Aujourd'hui, évidemment, ça a suivi l'évolution du secteur économique de la France, donc ça représente une toute petite partie. Et aujourd'hui, nous avons des entreprises coopératives qui sont principalement aux deux tiers dans le secteur des services.
Alors qu'est-ce que le groupe Leclerc, le grand distributeur, a de coopératives dans son organisation, puisqu'il fait partie des grandes sociétés coopératives qui n'ont rien à voir avec les SCOP et les SIC.
Ce qu'ils ont de commun, c'est leur mutualisation en termes d'achat. Nous, on va se retrouver uniquement sur ce point-là. On se retrouve d'ailleurs avec les têtes de réseau au sein d'une instance qui s'appelle COPFR pour bien travailler sur le droit coopératif. Et ça, on a des sujets communs en termes de plaidoyer et de répartition des richesses. Mais ça se passe au niveau des têtes de réseau.
La loi ESS Fatima de 2014, conduite par Benoît Hamon, précisait les données, cadre juridique, comme on dit, des entreprises de l'ESS, 220 000 entreprises en France. Et en particulier sur les coopératives et d'autres structures, c'était de limiter le différentiel de salaire entre le haut et le bas. Est-ce qu'on respecte ça et à quelle échelle dans les SCOP et les SIC?
C'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, mais qui aujourd'hui n'est pas inscrit d'un point de vue législatif. Mais c'est un sujet en tout cas qui nous tient à cœur dans le monde des SCOP et des SIC, où cet écart doit être forcément réduit.
Il y a une phase qui était inscrite dans la loi LESS qui était bien intéressante, puisque dans, soit il y a des créations ex nihilo de sociétés coopératives, soit ce sont des associations qui changent de formule et qui deviennent aussi coopératives, soit ce sont des salariés qui reprennent leur outil de travail en main sous forme coopérative, et il y a eu une SCOP d'amorçage. Le principe de la SCOP d'amorçage, c'était de proposer un accompagnement et d'aider les salariés qui doivent généralement casser leur tirelire pour acheter leur entreprise, de les guider financièrement et de les aider pendant 7 ans. Il y a eu 3 SCOP d'amorçage, 3 seuls. Catastrophe, ça marche pas. Pourquoi?
Alors, ça marche pas. Ça serait un peu simpliste. Pour que ça soit possible, il faut trouver ceux qui vont mettre le cash à disposition de ces salariés. Aujourd'hui, ce sont les cédants, donc qui ont une totale confiance et qui acceptent d'être payés avec un petit différé. On réfléchit surtout à innover financièrement pour que on puisse avoir d'autres alternatives que le cédant pour aller beaucoup plus loin. Et le nerf de la guerre étant le financement, on n'en est qu'à 3 aujourd'hui.
Qu'est-ce qui manque, Fatima, pour faire entendre auprès de tout le monde, des collectivités, des entreprises, des créateurs d'entreprises, que le modèle coopératif est un des meilleurs, dans le sens où il y a une confiance, il y a la notion de collectif, de décision partagée, d'intérêt partagé, de emplois non délocalisables, donc avec un ancrage territorial. Certes, elles ont le vent en poupe, mais pas encore assez.
C'est vrai qu'on a un vent en poupe au cœur des territoires, avec des politiques volontaristes de soutenir les têtes de réseau pour qu'elles puissent accompagner, financer. Donc à chaque fois qu'on a proposé des outils de financement, on a trouvé un écho auprès des régions, de la Caisse des dépôts, etc. Donc là, concrètement, on a les outils pour bien accompagner et financer la création et le développement d'entrepreneuriat. À mon sens, tant que nous n'aurons pas une politique aussi volontariste au niveau de l'État, on aura une mise en lumière du statut coopératif pour ce qu'elle renvoie en termes de développement des territoires, mais si ce n'est pas accompagné de véritables moyens, et c'est pas qu'une question de financement, hein, c'est de dire qu'est-ce qui va être incitatif pour que ça se développe réellement. Je prends souvent le cas de l'Espagne et de la Catalogne en particulier. Le nombre de coopératives, qui fait à peu près l'équivalent de toute la France, juste pour la région Catalogne, avait été décuplé. Et en fait, la décision du gouvernement...
C'était à cause de la faillite, ou grâce à la faillite.
C'était bien avant la faillite, parce que c'est les années 80. Vous avez eu une décision du gouvernement de Catalogne de favoriser une aide à la création si le choix était fait du statut coopératif. Parce que derrière, les porteurs de projets s'engageaient à créer de l'emploi qui était non délocalisable. Bien, il y a eu un effet multiplicateur de création, puisque l'aide à la création d'entreprises était fléchée coopérative.
Nous, on va lancer un appel à nos élus régionaux.
Mais oui,
parce que ce sont
nationaux,
des régionaux.
Il faut être ambitieux.
Nationaux, on va commencer par les régions. Chers amis des régions, décidez-vous en faveur des SCOP et des SIC.
Les régions sont quand même très très présentes.
Tant mieux. Le site, c'est les-scop.coop. Vous avez la page Facebook, le labo de l'ESS et le labo trait-d'union-ess.org. Merci Fatima.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Comme il me reste peu de temps, je profite toutefois pour faire un petit rappel de nos besoins de collecte de bonnes nouvelles, en particulier en provenance du Puy de Rhône, du Puy de Dôme, pardon, où nous serons au mois d'avril, et puis ensuite début mai de la Savoie et de la Haute-Savoie en Charente-Maritime, première étape du jeu des 1000 euros, Nicolas Stoufflet à Rochefort.